Donc, je m'appelle Blanche Vermessay, je suis professeure de philosophie à Lyon. Usuellement, j'enseignais au lycée, mais ça fait 5 ans que je finis un doctorat. Enfin, ça fait pas 5 ans que je le finis, mais ça fait 5 ans que, parce que je suis en doctorat et que je suis en train d'achever, j'enseigne dans le supérieur. Donc, j'ai enseigné pendant 3 ans à l'École normale supérieure, préparé des étudiants au CAPES de philosophie. Et j'enseigne depuis 2 ans maintenant au séminaire Saint-Irénée de Lyon, donc j'assure la formation des prêtres, enfin des aspirants prêtres en philosophie. Il y a 2 années de philosophie dans la formation. Voilà, grosso modo, je suis spécialiste de philosophie du XVIIe siècle, donc vous allez voir qu'on va en parler aujourd'hui. Et plus spécifiquement, je travaille sur la question de la puissance de Dieu à la classique, dans ses composantes politiques. Donc, je m'intéresse principalement à la question de la théocratie, dont il sera beaucoup question ce soir. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme présentation? Fort bien.
Okay. Donc le principe, je rappelle juste le principe. Donc Blanche, vous avez une heure à peu près. Ensuite, il y a toujours un petit temps qui permet entre nous de discuter, s'il y en a qui veulent faire des remarques plus perso, donc à la conférencière, vous pouvez le faire. Et puis après, on se donne jusqu'à les 10h30. Alors le principe, hein, on le discutait donc avec Blanche, on prendra les questions par groupe de 3, et Blanche répondra à ce qu'elle souhaite.
Ça fait très arbitraire, du coup.
Donc vous allez aller jusqu'à... Une heure ou moins.
Mais... J'ai peur que ce soit une heure ou plus, mais au pire, là aussi, vous me coupez violemment et on passera plus vite à la discussion. Ça marche aussi, mon ego ne se place pas là. Très rapidement, avant de commencer, je crois que j'ai changé le titre. Je suis désolée. Je ne sais pas d'où vient le titre qui est dans le programme. C'est pas grave parce que ça recouvre quand même la même chose, mais je vous préviens quand même. Donc le titre de cette intervention, c'est « Pourquoi et comment dialoguer en matière de religion ?» Spinoza et la critique de l'autarcie. Il va s'agir principalement de philosophie du XVIIe, même si ça a des enjeux extrêmement féconds hein, pour notre temps, et surtout de la critique que Spinoza fait du repli autarcique. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est penser la nécessité de l'ouverture à l'altérité. Si ça vous convient. Sinon, on peut faire autre chose. Voilà. Alors, pour commencer, il peut sembler un petit peu étonnant ou contre-productif de faire intervenir une historienne de la philosophie, hein, parce que c'est mon métier, et plus encore une spécialiste du XVIIe pour traiter une question aussi actuelle, brûlante, hein, que le dialogue en matière de religion. Et de fait, l'histoire de la philosophie, c'est souvent cet effet-là, hein, elle apparaît souvent... et parfois, à juste titre, il faut bien l'avouer, comme une sorte de lubie intellectuelle qu'on peut s'autoriser une fois qu'on a réglé les questions urgentes. Quoi. Une fois qu'on a réglé les problèmes importants pour notre temps, on peut s'interroger sur ce qui s'est passé avant. Quoi. Et pourtant, c'est ce dont j'aimerais vous convaincre ce soir, il me semble que c'est parfois précisément dans ce qui a été pensé avant qu'on trouve des solutions pour maintenant. Ou à défaut d'ailleurs, à défaut de solution, au moins des ressources ou des moyens de penser des problèmes qui sont très actuels. Et parmi ces problèmes, il y en a un qui, pour n'être pas vraiment nouveau, se pose de manière toute particulière aujourd'hui, et qui est celui de la nécessité et de la difficulté du dialogue en matière religieuse. Alors j'écoutais il y a pas très longtemps une conférence de Guillaume Cuchet, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un bel ouvrage sur la fin du catholicisme aujourd'hui. Et la conférence s'intitulait « Le catholicisme a-t-il encore un avenir parmi nous ?» Titre extrêmement positif, mais la conférence était passionnante. Et il y interrogeait les transformations auxquelles la religion catholique est sujette aujourd'hui en France. Et parmi ces transformations essentielles, la plus grande selon lui, c'est le devenir minoritaire. Hein. Qu'est-ce qui advient quand une religion autrefois majoritaire sur un territoire devient minoritaire? Comment est-ce qu'on vit sa foi, qu'est-ce qu'on fait de cette foi quand elle n'est plus commune à l'ensemble d'une société, quoi? Comment est-ce qu'on vit le fait de ne plus constituer la majorité d'une société. Et il se trouve que une tentation aisée, très compréhensible dans ce cas-là, c'est de se replier. Hein. Exactement comme en pleine bataille, on se replie pour refaire ses forces, faire le point, essayer de savoir ce qu'on va faire de ça. Et de fait, c'est une tentation que nous avons tous, hein, individuellement, collectivement, État, Église, c'est une tentation naturelle. Et de fait, cette tentation, elle n'est pas propre au seul catholicisme, puisque ce que remarquait Cuchet dans sa conférence, c'est que l'un des éléments les plus propres à la période que nous vivons, et qui questionne l'ensemble des religions, pas seulement le catholicisme, c'est le recul considérable de l'appartenance religieuse. Et d'ailleurs, un recul qui ne signifie pas nécessairement une disparition de la foi, mais en tout cas un éloignement considérable des structures religieuses ou des institutions. Donc, de fait, depuis, disons, les années 60, mais c'est un mouvement ancien, la France, elle connaît un double mouvement, hein, recul global de la religiosité et multiplication des religions pratiquées sur le territoire, puisque, avec entre autres, hein, l'apparition de l'islam comme religion importante de la société française. Et on voit immédiatement, hein, l'équation est propice au repli. Hein, minorisation au sein d'une société globale, plus diversification, égale ou souvent égale, saisie de l'altérité comme une adversité, et donc réaction de protection égale repli. Équation commune aujourd'hui. Et cette équation, elle pose en termes renouvelés une question qui est aussi ancienne que l'irreligion elle-même, et de fait Spinoza ça pose également, hein. Quelle relation entretenir avec l'altérité? Et d'ailleurs, que cette altérité soit intérieure, hein, au sein même des religions, quelle relation entretenir avec les opinions divergentes, ou extérieure, quelle relation entretenir avec les autres religions, voire avec autre chose que des religions. La question c'est, entre protection du dogme et nécessité de l'échange, quelle place y a-t-il pour le dialogue? Alors, il faut dire que le dialogue, c'est pas une évidence. Ça va mieux en le disant. Le dialogue, c'est pas de tout repos, et chacun en a fait l'expérience, hein, je crois, enfin j'espère ne pas être la seule, hein, à avoir fait l'expérience de la difficulté du dialogue dans son couple, dans sa famille, à son travail. Le dialogue, c'est douloureux, difficile, complexe. Et pire, le dialogue peut être dangereux dès lors qu'il dégénère en dispute, en division, en schisme, en guerre. Et sur ce point, l'étymologie est particulièrement explicite et intéressante, hein, puisque dialoguer ou discuter et disputer ou discorder, qui peuvent nous apparaître comme des opposés, du point de vue sémantique en tout cas, ont en fait une même racine, puisque le préfixe latin dis ou le préfixe grec dia, qui sont à peu près des correspondants, expriment de manière identique la séparation, l'écartement, l'opposition. Donc il y a quand même une même racine à dialogue et dispute, à discussion et dispute, et discorde. Alors, il n'est pas d'usage de faire une dissertation de philo sur l'étymologie, mais néanmoins ça questionne quand même. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une même racine à l'origine de termes qu'on saisit spontanément comme pourtant absolument opposés? De fait, le dialogue suppose bien la distinction, hein, pas forcément l'opposition, mais au moins la distinction. Il n'y a dialogue que entre des personnes séparées, concrètement distinctes. Sinon, c'est une forme de communion ou d'union, mais il n'y a pas de dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut déjà être séparé. Donc le dialogue, c'est le discours, logos, qui se déploie entre deux altérités distinctes, dia. Cette distinction, cette séparation, elle peut alors être transcendée par un échange créateur de liens, ou alors radicalisée par la dispute. Et d'ailleurs, il est intéressant à ce titre de noter que le terme « dispute » contient lui-même en son sein les deux opposés. Deux sens opposés, celui de l'échange constructif d'arguments, disputer une thèse, c'est en débattre, quoi, et celui de la confrontation ou de la querelle, se disputer. Et d'ailleurs, il en va de même avec le terme, le verbe discuter, qui signifie aujourd'hui parler avec d'autres en échangeant des idées, mais dont le sens classique et j'ajouterais ecclésiastique, hein, c'est un fait attesté, et plutôt examiner, contester, remettre en question, c'est-à-dire s'opposer discursivement. Donc il y a une ambiguïté inhérente au dialogue et à tout discours échangé qui peut être le lieu de la construction comme de la déconstruction, de la communion comme de la division, de la querelle comme de la réconciliation. Et en ce sens, il y a une proximité certaine entre le dialogue et la religion. Alors, on s'est longtemps plu à rattacher le mot religion, religio hein, en latin, au verbe religare, relier. Alors, manifestement, cette étymologie est fantasmée, même si elle a beaucoup plu au père de l'Église, parce qu'elle est belle. Mais même si elle est fantasmée, il n'en est pas moins vrai que la religion, c'est bien ce qui relie. Hein. Même si, pour le coup, ça ne se traduit pas étymologiquement, c'est ce qui relie le fidèle à Dieu, les fidèles entre eux, une liaison qui transcende une séparation et une altérité originaire. Hein. Je ne suis pas Dieu, et l'autre n'est pas moi. Et c'est le dialogue et la religion aussi qui vont transcender cette séparation originaire. Mais de fait, ce qui relie certains les sépare aussi des autres. Parce que la religion est ou devient un élément identitaire, d'identité, de définition, elle devient, comme toute définition, un instrument de négation. Hein. Ce qui me définit, c'est de ne pas être comme les autres. Ce qui définit un chat, c'est de ne pas être un chien, une fleur, une tulipe ou une citrouille. Toute négation, par définition, fonctionne sur la négation. Donc, dès lors que la religion elle devient définitoire, identitaire, elle suppose aussi la négation des autres. Je me définis par ce que je ne suis pas ou ce que les autres ne sont pas. Ce qui m'unit au mien, ce qui me relie au mien, c'est aussi, par extension, ce qui m'éloigne des autres. La question essentielle, c'est alors la suivante. Quel usage faire du dialogue pour qu'il ne soit pas un facteur de division? Peut-on dialoguer en matière religieuse sans risquer, d'une part, de perdre ce qui fait le cœur ou la spécificité, l'identité d'une religion? L'objectif, c'est pas de dialoguer pour se fondre dans l'adversité, et sans pour autant se diviser plus encore, c'est-à-dire tomber dans la dispute, du dialogue à la dispute. Peut-on dialoguer sans perdre son identité et sans discorder? Alors, que fait Spinoza dans tout ça? Eh bien, il se trouve que comment dialoguer sans se disputer, c'est la question qui obsède Spinoza. Et c'est précisément cette question qui va le pousser à écrire une de ses œuvres majeures, qui s'appelle le Traité théologico-politique. On dit comme ça, c'est pas hyper sexy, mais c'est une œuvre majeure et extrêmement belle, je vous demande de me croire sur parole. Et pourquoi est-ce qu'il écrit cet ouvrage? Parce qu'il vit dans un monde où les conflits religieux sont partout et où l'expression de la dissidence en matière de foi est absolument pas évidente. Alors, qui est Spinoza? Peut-être que tout le monde ne le fréquente pas quotidiennement. Spinoza, c'est un philosophe néerlandais qui naît en 1632 et qui appartient à la communauté des Juifs ibériques, c'est-à-dire une communauté juive qui avait fui la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, à la suite des politiques de persécution systématique mises en œuvre par l'Inquisition espagnole, principalement, et portugaise, et qui avait trouvé refuge dans les pays du nord de l'Europe, et plus particulièrement aux Pays-Bas. Entre autres, principalement en raison de la relative liberté de religion qui régnait, relative, surtout comparée aux autres pays, qui n'était pas extrêmement glorieux à ce moment-là. Mais on va voir que c'est assez relatif. Donc, la question du conflit religieux, elle marque la vie de Spinoza, finalement, depuis l'origine. Du simple fait qu'il appartient à cette communauté, qui est une communauté en exode, fondamentalement. Cette question de l'exode, elle va le suivre toute sa vie, et ça explique qu'il y a un travail si important de l'Ancien Testament dans l'œuvre de Spinoza. Donc, la question du dialogue religieux, elle naît là, hein, elle naît dans l'appartenance à cette communauté qui se trouve être dans une situation de relative tolérance, mais enfin pas si évidente que ça, dans l'Amsterdam du XVIIe. Et il se trouve qu'il va être exclu de cette communauté en 1656, à la suite d'une mesure qui s'appelle le RM, qui est l'équivalent d'une excommunication à peu de choses près, enfin à des choses réelles près, mais pas, on va dire ça comme ça, l'équivalent d'une excommunication, probablement, pour ces idées, probablement à la suite d'un procès en hérésie. Donc la question de la liberté de parole et de la difficulté du dialogue en matière religieuse, elle le poursuit d'une certaine manière, et elle prend sa source dans une expérience vraiment intime, existentielle, puisqu'il fait l'expérience en sa chair de l'exclusion d'une communauté du fait de ses idées religieuses, entre autres. Et en même temps, cette intolérance qu'il vit dans son expérience intime, elle n'est pas du tout propre uniquement à la communauté juive d'Amsterdam, puisque malgré la relative liberté religieuse qui y règne, les provinces unies de l'époque, hein, l'équivalent aujourd'hui des Pays-Bas, sont extrêmement divisées et ne sont pas un modèle à proprement parler de dialogue interreligieux. Hein. Elles sont extrêmement divisées, d'abord parce que les religions y sont très nombreuses, beaucoup plus que dans les autres pays d'Europe à la même époque. Hein, on y trouve principalement des réformés, un peu de catholiques, plus beaucoup parce que depuis la guerre contre l'Espagne, le catholicisme y est extrêmement discriminé, donc ils sont peu visibles. Mais on y trouve aussi, et surtout, un très très grand nombre de sectes protestantes minoritaires, plus ou moins divisées. Hein, en l'occurrence, le calvinisme strict, disons majoritaire, s'y oppose assez fortement à ceux qui revendiquent une liberté de croyance et de culte pour de multiples sectes minoritaires. Alors on y trouve tout un ensemble de courants, hein, de la réforme, des arméniens, des anabaptistes, des antitrinitaires, des socinien, des millénaristes, qui font plus ou moins l'objet de discrimination. Donc, c'est dans ce contexte un petit peu tendu quant aux relations et au dialogue interreligieux que vont naître des cercles d'intellectuels, qu'on dirait aujourd'hui progressistes, le terme n'est pas d'époque, qu'on appelle les collégiens. Alors qu'est-ce que c'est que les collégiens? Ce sont des groupes de dissidents, souvent cartésiens, tout le temps humanistes, qui sont principalement formés de tenants de ces courants minoritaires de la Réforme, principalement des arméniens et des anabaptistes, mais qui sont ouverts à toutes les confessions. Ça, c'est rarissime. Pour l'époque, c'est un cas quasi unique. Ces groupes-là, ils se réunissent une fois par mois en collège, hein, d'où le nom collégien, durant lesquels tous les participants ont la liberté de s'exprimer. Et de fait, Spinoza fréquente assidûment ces cercles où le dialogue est non seulement toléré, mais absolument encouragé. Et entre autres, le dialogue en matière religieuse. Alors il faut dire que la liberté d'expression en matière religieuse n'est pas tout à fait une évidence dans cette fin de 17e. Hein. Pour vous donner un exemple, en 1669, un ami de Spinoza, Adrian Coerbar, est condamné pour avoir publié un violent réquisitoire contre la religion chrétienne, et il mourra emprisonné un an plus tard à la suite de cette condamnation. Donc c'est dans ce contexte où la liberté d'expression n'est pas une évidence que Spinoza va rédiger cet ouvrage, le traité théologico-politique, un pamphlet qui défend, avec une certaine virulence, la liberté de philosopher. Alors, dans liberté de philosopher, il faut entendre en arrière-fond, même si ça n'apparaît pas, la liberté de dialoguer en matière religieuse. Le texte va paraître en 1670. En raison de son caractère très sensible, il va paraître de manière anonyme, sous une fausse adresse. On s'entoure de tout un ensemble de précautions qui ne servent à rien, parce que très vite on identifie Spinoza comme l'auteur de l'ouvrage. Très vite on identifie la maison d'édition et très vite l'ouvrage est absolument interdit. Spinoza est accusé avec une certaine violence d'athéisme, ce dont il se défendra toujours d'ailleurs, qui fait. Et la réaction très violente à son ouvrage le découragera de publier ses autres textes qui seront tous publiés de manière posthume. Donc voilà pour vous donner la situation un peu de concret. Voilà le contexte dans lequel Spinoza écrit son texte. Donc tout le problème, il est là. Tout le problème, c'est bien ça. Défendre la liberté de philosopher, défendre la possibilité du dialogue en matière religieuse, défendre la liberté de professer et d'échanger des opinions dans la sphère publique, sans que cette discussion ne provoque la division et le schisme qui ont fait déjà tant de mal aux religions comme aux États. faut voir quand même qu'on est à la fin du 17e, hein, donc la réforme est récente. Et on vit encore la réforme comme un schisme insupportable au sein de la chrétienté. Donc l'idée de la division religieuse, elle est très forte. Donc, il faut impérativement, pour Spinoza, défendre la liberté de philosopher, défendre le dialogue en matière religieuse. Pourquoi est-ce qu'il faut le défendre? Parce qu'à tout prendre, on pourrait se dire, bon, si le dialogue est dangereux, ma foi, interdisons-le. Et c'est une solution qui a été proposée par beaucoup, hein. Hobbes en est le premier à dire, ma foi, puisque les gens se tapent dessus quand ils parlent, interdisons l'expression des opinions personnelles en matière religieuse dans l'espace public. On va dire, pourquoi Spinoza ne fait pas ce choix? Tout simplement parce que, pour une raison qui, à mon avis, est tout à fait intéressante pour l'objet qui nous occupe, parce que pour Spinoza, l'ouverture à l'altérité, ça n'est pas une règle morale, ça n'est pas l'expression de bons sentiments. En règle générale, Spinoza s'en moque un petit peu de tout ça. C'est tout simplement une nécessité vitale. L'idée, c'est ça. Finalement, cette conférence, elle va se réduire à ça. Si on ne se confronte pas à l'altérité, on crève. Voilà. Donc il faut trouver un moyen de s'y confronter, et de s'y confronter sans que ce soit terrible. Et c'est tout l'objet, c'est tout l'objet, il y en a bien d'autres, mais c'est tout l'objet de cette conférence et d'une partie de son œuvre. C'est une nécessité vitale de se confronter à l'altérité, et donc de dialoguer par extension, pour les individus comme pour les collectivités. D'où la problématique de cette conférence. Pourquoi et comment dialoguer en matière de religion? Donc, première réponse que j'évoquais à l'instant, pourquoi dialoguer en matière de religion? Première réponse, parce que le rapport à l'altérité est une nécessité vitale. Alors, pour qui elle est une nécessité vitale? Ben, d'abord pour l'individu. Alors, pourquoi c'est une nécessité vitale pour l'individu? Pour deux raisons essentielles. Première raison, parce que notre aptitude à penser dépend de notre aptitude à être affecté par les choses extérieures. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais l'idée, elle est très très simple. C'est que mon aptitude à penser dépend de mon aptitude à rencontrer une diversité de choses qui ne sont pas moi. Premier point. Deuxième raison pour laquelle la rencontre de l'altérité est une nécessité pour l'individu, parce que notre capacité à résister et à nous adapter au monde, aux conditions extérieures, dépend précisément de notre aptitude à rencontrer un très grand nombre de choses. Plus on rencontre des choses diverses, plus on est adaptable au monde. Moins on rencontre une diversité de choses, et plus on est fragile. Alors, commençons par le premier point. Est-ce que ça vous gêne beaucoup ça? Sinon j'arrête de bouger. Je peux me mettre ça. Voilà. Voilà. Je sais que j'arriverai pas à m'empêcher de Alors, ça je peux me livrer à la bande de Tanguy, tout va bien. Alors. Merci. Ça change un peu le point de vue, mais j'espère que ça... Certains ne voient plus, ils gagnent. Donc, commençons par le premier point. Plus le corps est apte à percevoir, plus l'âme est apte à penser. Pour Spinoza, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails qui n'ont pas beaucoup d'intérêt là, mais il faut voir que l'âme et le corps ne sont pas des substances séparées. Hein, on rompt de ce point de vue-là avec le cartésianisme, hein, qui marquait vraiment la distinction de l'âme et du corps. Pour Spinoza, l'âme et le corps, c'est la même chose. Grosso modo. On peut considérer, si vous voulez, que l'âme et le corps sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. La conséquence, c'est que l'âme a idée de tout ce qui se passe dans le corps, et plus encore, une conséquence extrêmement intéressante qui a beaucoup d'enjeux aujourd'hui, la conséquence, c'est que les facultés de l'âme dépendent des facultés du corps. Ça n'est pas séparable. Plus le corps est affecté par une diversité de choses, plus l'âme est apte à percevoir un très grand nombre de choses et à les penser. Entre parenthèses, ça a des conséquences et des enjeux essentiels en matière de pédagogie. Si la capacité à penser dépend de la capacité du corps à être affecté par beaucoup de choses, ça suppose que il dit ça et je suis moi-même enseignante, hein, le meilleur moyen d'enseigner à des enfants, c'est pas de les asseoir à un bureau en leur bourrant le crâne. C'est nécessairement de développer les aptitudes corporelles et la rencontre des choses extérieures, ce qui ne se fait pas ou pas toujours très bien dans une classe. Fin de la parenthèse. Je nierai si vous faites écouter ça à mon inspecteur d'académie. Un exemple qui permet de s'en convaincre très facilement, plus nous diversifions nos expériences, plus nous rencontrons des choses nouvelles et plus nous élargissons le cercle de ce que nous pouvons concevoir. Hein, et plus notre réflexion se trouve nourrie. Très bêtement, c'est difficile de penser ce que c'est que l'alpinisme si on n'a jamais vu une montagne, quoi. Alors, de manière directe ou indirecte, hein, l'affectivité, elle peut être, on peut être affecté de manière directe parce qu'on fait l'expérience soi-même de l'alpinisme, ou indirecte. Quelqu'un m'en parle, on me montre des photos, je regarde un film. On n'est pas obligé de vivre en première personne toutes les choses. Mais il faut forcément être affecté pour pouvoir penser une chose. C'est quand même plus facile de concevoir ce que c'est que la Thaïlande si vous avez vu un documentaire Arte sur la Thaïlande. Sinon, quelqu'un qui vous dit eh ben, c'est un pays très très loin où les gens ne nous ressemblent pas trop, pas évident. Donc c'est quelque chose qui est en fait assez intuitif, mais qui est très nouveau pour l'époque. Et très nouveau pour la pédagogie contemporaine. Voilà. Donc, plus je suis apte à être affectée par beaucoup de choses et à rencontrer beaucoup de choses, plus je suis apte à penser beaucoup de choses. Voilà. Inversement, plus notre aptitude à être affectée par les choses extérieures est réduite, et plus ça menuise nos rencontres et nos expériences, et moins l'âme est apte à percevoir ou à penser. Une fois encore, on en a des exemples très faciles, hein, et la réduction des activités et des stimulations entraîne bien souvent chez les personnes âgées, alitées, enfermées, une régression des aptitudes cognitives. Là encore, aujourd'hui c'est une évidence, pour certains, ça ne l'était pas au XVIIe. La conséquence, elle n'est pas sans intérêt pour ce qui nous occupe, c'est que plus nous nous coupons de l'extériorité, plus notre confrontation à l'altérité diminue, et plus notre aptitude à penser se réduit. Or, qu'est-ce qui arrive quand notre aptitude à penser se réduit ? Eh bien, nous sommes bien davantage sujets à la superstition, pour Spinoza. Or, si la superstition, c'est un terrible danger du point de vue spirituel, c'est aussi un redoutable instrument politique. Comme le souligne Quintcur, que cite Spinoza, « Pour gouverner la multitude, rien n'est plus efficace que la superstition. » J'adore cette phrase. C'est pourquoi elle est parfois volontairement maintenue, voire constituée par un groupe ou un État, puisqu'il suffit de transformer le souverain en Dieu ou en son émissaire, il suffit de transformer les lois en risques pour que les hommes y obéissent, non plus contraints et forcés, mais librement, parce que par piété. C'est génial la superstition. Ça permet de gouverner des masses de manière extraordinairement efficace. Donc le meilleur moyen de maintenir cette obéissance, c'est précisément d'interdire le dialogue et la discussion. Alors, Spinoza y voit un exemple de ce type d'interdiction chez les Turcs. Moi, tout à fait honnête, la connaissance de la Turquie par Spinoza est très réduite. Il en parle pour le coup de manière très 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 indirecte, mais je vous cite quand même cette citation. Ces mesures n'ont nulle part eu plus d'effet que chez les Turcs, où la discussion même passe pour sacrilège, où tant de préjugés pèsent sur le jugement que la droite raison n'a plus de place dans l'âme et que le doute même est rendu impossible. Donc si vous voulez gouverner les masses, vous instaurez une superstition bien solide, les gens adhèrent encore mieux si le dialogue est impossible. Le combo idéal pour un État. Bon, on passe sur l'exemple de la Turquie. Bref. Donc, l'absence du dialogue et l'impossibilité de discuter réduit l'aptitude à penser, augmente la tendance naturelle de l'homme à la superstition et le rend aisément manipulable. Moins nous sommes confrontés à l'altérité, moins nous sommes aptes à prendre une saine distance réflexive, vis-à-vis de nos comportements et de nos croyances, et, je pourrais ajouter, moins nous sommes spirituellement libres. Moins nous discutons, moins nous nous confrontons à l'altérité, plus nous sommes superstitieux, moins nous sommes libres, moins nous sommes libres, moins notre adhésion à la foi est l'objet d'une saine adhésion libre et d'un désir profond du croyant, mais l'objet d'une adhésion passive à un corpus qui nous est donné tout seul. Mais à dire vrai, c'est pas le plus grave. Si le repli sur soi réduit l'aptitude à penser et augmente l'aptitude à être asservi, il conduit aussi à un danger plus grave encore pour l'individu, dans la mesure où il réduit sa capacité d'adaptation aux conditions extérieures. J'en viens à mon deuxième point. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se confronter à l'altérité ? Parce que moins on est affecté par les choses extérieures, moins on est adaptable. Et ça, c'est plus grave. Plus grave encore. Parce que le risque, si on est superstitieux, c'est d'être asservi. C'est pas génial. Mais pour être asservi, il faut être vivant. Le risque, quand on n'est plus adaptable aux circonstances, c'est de mourir. C'est-à-dire, c'est de ne pas résister au changement des circonstances. Hein, quand on n'est plus adaptable, le risque, c'est d'être brisé par le moindre changement des conditions extérieures. Plus grave. Prenons un exemple... Donc, moins on est affecté, moins on est adaptable. Pour comprendre ce point, il faut revenir un instant sur ce qui fait la spécificité humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Un homme, c'est une structure complexe. Et c'est précisément cette complexité de l'organisme humain qui le rend adaptable. Plus un corps est complexe, plus il est adaptable aux circonstances. Un corps simple, peu ou pas composé, il est extrêmement vulnérable aux conditions extérieures. Tout simplement parce que, faute de complexité interne, il a très peu de possibilités de réaction aux circonstances. Donc il risque à tout moment d'être détruit par le changement de ses circonstances. En revanche, plus un corps est complexe, et plus il peut, du fait de cette complexité, réagir d'un très grand nombre de manières, et donc s'adapter. Prenons un exemple très simple. Une goutte d'eau qu'on place devant une source de chaleur, elle se transforme rapidement en vapeur et elle disparaît comme goutte. Spinoza dirait, dans son vocabulaire, elle meurt comme goutte. En revanche, un corps humain placé devant une source de chaleur est suffisamment complexe pour disposer de moyens de régulation thermique qui font qu'il sera certes modifié, mais ne verra pas sa structure interne détruite. Donc plus un corps est complexe, et moins les changements de ses parties peuvent avoir de répercussions sur la structure d'ensemble. Tout simplement parce que elles sont compensées les unes par les autres. Plus il est complexe, donc, et moins il est vulnérable au changement des conditions extérieures. En l'occurrence, parce qu'il est très composé, le corps humain peut être affecté d'un très grand nombre de manières, tout en conservant sa nature, pourvu qu'il conserve son unité structurelle. C'est précisément ce qui fait que les parties de votre corps peuvent se modifier, disparaître, être remplacées, sans pour autant que l'individu que vous êtes n'en soit altéré de manière essentielle. Hein. C'est ce qui fait par exemple que la croissance, qui constitue quand même un apport considérable de matière, ne change pas l'individu que vous êtes, sauf pathologie lourde, psychiatrique lourde. C'est ce qui fait que l'extraction d'une dent de sagesse, voire l'extraction d'un, l'amputation d'un membre, n'altère pas l'individu que vous êtes par essence. Hein. Tout simplement parce que l'organisme humain étant très complexe, le changement d'une partie ne change pas la structure globale, parce que le rapport des parties se maintient. Donc non seulement un tel corps, il peut supporter beaucoup de variations, mais en plus il a besoin de ces variations. Hein, parce que le corps, il doit être alimenté, abreuvé, entraîné, et donc il nécessite, pour se maintenir, un très grand nombre d'éléments extérieurs pour se régénérer et se maintenir quotidiennement. Donc, plus on diversifie nos rencontres et nos expériences, plus on se confronte à l'altérité, plus on diversifie la manière dont nous sommes affectés. Or, plus on diversifie la manière dont nous sommes affectés, plus on complexifie sa structure affective, et plus on complexifie sa structure affective, plus on multiplie les réponses possibles aux stimuli extérieurs. Et plus on augmente notre adaptabilité. Pour vous donner un exemple très simple, vous rencontrez pour la première fois un objet, une personne, quelque chose que vous n'avez jamais rencontré. La réaction affective immédiate, la capacité de réaction affective va être très restreinte. Souvent, l'inquiétude, qui est assez naturelle, sauf pour des gens qui ont une nature spontanément ouverte, souvent l'inquiétude, parfois l'angoisse, parfois l'agressivité. Bon. Il suffit d'être fréquemment en contact avec ce même objet pour que le nombre des réactions possibles s'augmente. Je peux certes maintenir cette réaction d'inquiétude première, mais je peux aussi m'intéresser à l'objet. je peux aussi désirer cet objet, je peux l'aimer cet objet. Ou alors être absolument convaincu que j'avais absolument raison de m'inquiéter. Mais je diversifie les possibilités de réaction. En diversifiant les possibilités de réaction, je deviens adaptable bien davantage aux situations extérieures. Ce qui fait que si cette situation change, je peux moi-même adapter mon fonctionnement et donc ne pas être immédiatement détruit par le changement des circonstances. Je suis donc plus fort. Il y a là un cercle vertueux. Plus nous sommes complexes, plus nous pouvons nous adapter aux conditions extérieures sans en pâtir, plus nous nous confrontons à l'altérité et plus nous accroissons cette complexité qui nous permet soit d'y résister, soit d'en profiter. Plus on est complexe et plus on peut résister de diverses manières aux choses et plus on peut profiter de ces choses sans pâtir du danger qu'elles peuvent représenter effectivement. Exemple très bête. L'alcool est dans l'absolu dangereux pour la santé, mais parce que nous sommes des structures complexes et que nous diversifions les choses avec lesquelles nous sommes en relation et que nous ne consommons pas uniquement de l'alcool, il se trouve que l'alcool devient quelque chose dont nous pouvons profiter à petite dose. Bon. Ce qui n'est pas le cas si on se nourrit exclusivement de ça. Bon. Alors, qu'advient-il du coup inversement quand on fait le choix du repli? Lorsque, par peur, par haine, par mépris, quelle que soit la raison, nous nous coupons du rapport à l'altérité, nous réduisons nos échanges, nous cessons de dialoguer avec ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions, ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et ben, en réduisant notre affectivité, nous courons deux risques majeurs. A minima, nous risquons de voir notre affectivité dominée par un très petit nombre d'affects qui, faute de concurrents, deviennent vite envahissants et nous asservissent tout à fait. Alors, ce qui nous apprend un joli terme pour parler de ça, de la domination. Quand notre affectivité contient peu d'affects, il s'impose une domination. Hein, tout simplement parce qu'il n'y en a pas pour faire concurrence. Spinoza appelle ça le délire. Hein, le délirant, pour Spinoza, c'est pas ce que nous on appellerait le délirant. Le délirant, c'est celui qui est complètement dominé par un seul affect. Et il prend des exemples qui pourraient nous paraître curieux, qui ne sont pas des exemples de délire pour nous. Il prend l'exemple du fou d'amour. Le fou d'amour, il est tellement obnubilé par son désir, que d'ailleurs il délire, parce qu'il le voit partout, il le cherche partout, il est constamment présent devant ses yeux, alors même qu'il n'est pas là. Mais de la même manière, l'équivalent du fou d'amour, c'est l'avare. L'avare, il est tellement obnubilé par son désir d'argent, et par le désir de le conserver, qu'il n'a que ça à l'esprit, qu'il n'a constamment que l'argent à sa conscience. Hein, et d'ailleurs qu'il le voit partout, ou il le voit partout manquant. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe quand on rencontre peu les choses extérieures? On voit son affectivité réduite. Qu'est-ce qui se passe quand on a peu d'affect? Eh bien, il nous domine tout à fait. Et c'est très difficile de s'en dégager. Hein. L'avare, c'est très difficile pour lui d'éprouver autre chose que cette peur panique de manquer. Le fou d'amour allait lui expliquer qu'il faut un peu qu'il pense à autre chose. Bah, si vous avez des enfants adolescents, vous allez voir que c'est une aventure quand même. Hein, moi-même en ce moment, je m'occupe d'une maison d'étudiants, ils ont tous 20 ans, je peux vous dire que je passe ma journée à ça. Alors dire peut-être faudrait aller voir autre chose et à me dire, ah oui, mais pense à Spinoza, le fou d'amour est délirant. Donc, c'est pas le meilleur moyen de leur expliquer. Donc, à minima, quel est le risque? Et bien, c'est d'être totalement dominé par ses passions. Moins il y en a, plus elles nous dominent. D'où la nécessité de diversifier notre affectivité. Hein, pour que chaque affect pris de manière individuelle ait moins de poids. Mais à maxima, nous courons un risque bien plus grave, qui est celui d'être moins adaptable aux conditions extérieures, moins résistant aux circonstances, plus fragile, plus vulnérable, et le cas échéant de ne plus pouvoir leur résister. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que du point de vue individuel, le repli sur soi, l'autarcie, la bunkérisation, le refus de l'altérité sont des postures extrêmement dangereuses. S'il faut à tout prix diversifier notre aptitude à être affecté et à affecter les choses, c'est-à-dire tout simplement à entrer en relation avec l'extériorité, hein, à en faire l'expérience, ça n'est pas parce que le rejet de l'autre est une posture moralement condamnable, ça n'est pas parce que c'est quand même mieux, c'est quand même plus gentil d'entrer en relation avec les autres, c'est parce que c'est une posture existentiellement néfaste que de se couper du monde. C'est une posture qui réduit notre aptitude à penser, fragilise notre adaptabilité au monde, nous rend dépendants de passions immaîtrisables et nous rend sujets à la superstition. C'est donc un raisonnement erroné qui nous pousse à croire qu'en nous repliant, nous pourrons nous préserver. Bien au contraire, c'est en se repliant qu'on se fragilise. Et ce qui est vachement intéressant, c'est là où on touche au point intéressant, c'est que ce qui vaut pour les individus, vaut pour les communautés. Pour les communautés. Les collectivités. Alors Spinoza, il a surtout pensé le modèle de l'État comme collectivité, mais tout ce qu'il dit de l'État peut être en général entendu également pour les églises, de manière identique. Et de la même manière que la réduction du contact avec l'altérité, le refus de la confrontation à l'altérité, réduit notre aptitude à nous adapter aux circonstances, et bien de la même manière, le repli sur soi des communautés, des États, des églises, des associations, des congrégations, le repli sur soi réduit leur aptitude à résister aux circonstances et les fragilise de manière inéluctable. Sans qu'on s'en rende compte en général. En général, c'est au moment où ça pète qu'on se rend compte qu'il y avait un souci. Mais c'est trop tard. Alors, pourquoi est-ce que ce qui est valable pour l'individu vaut pour les communautés? Je passe très rapidement, mais tout simplement parce que, pour Spinoza, une collectivité, c'est un individu à une échelle plus grande. Hein, donc tout ce que je vous ai dit sur la complexité des individus qui leur permet de résister aux circonstances vaut à une échelle plus grande pour des communautés qui sont d'une certaine manière des grands individus constitués eux-mêmes d'individus. Voilà. Je passe, ça me permet d'aller au point qui m'intéresse davantage. Donc, ce qui compte, c'est de voir que, dans une certaine mesure, on peut appliquer au groupe l'analyse de l'affectivité développée par Spinoza. Et de fait, les deux, les individus humains et les individus collectifs, peuvent prendre les mêmes postures. Tout comme l'individu humain, l'individu politique, l'individu ecclésial, l'individu associatif, peuvent faire le choix de l'ouverture, de la rencontre de l'autre, de la confrontation à l'altérité, du dialogue, ou le choix du repli et de l'autarcie. La question, du coup, c'est la suivante. Qu'est-ce qui advient quand un groupe se referme sur lui-même? Qu'advient-il quand un État, une Église, fait le choix du repli? Pour Spinoza, la réponse se fait en deux temps. Il faut reconnaître que, à court ou moyen terme, le repli, c'est assez efficace. C'est pas pour rien que les collectivités font ce choix. Il y a une forme de pertinence à court terme. À court terme, le repli, ça permet effectivement, comme on va le voir, de maintenir une forte identité, une forte unité, une forte cohésion interne contre l'extériorité. Donc à court terme, ça marche. C'est pas pour rien d'ailleurs, les gens sont pas stupides, hein. C'est pas pour rien que les groupes se replient. Bon. À court terme, ça marche bien. Tout l'intérêt de Spinoza, c'est de montrer que à long terme, en revanche, et exactement comme pour l'homme, un tel repli ne peut qu'entraîner la réduction de l'adaptabilité et par extension une fragilisation accrue du groupe qui risque de voir sa structure, son identité se disloquer et mourir. Alors pour analyser ce mécanisme, Spinoza prend un exemple bien connu de l'Ancien Testament qui est le royaume de Moïse. Alors il ne s'agit pas du tout pour Spinoza, je préviens au cas où ça vous étonnerait un petit peu, il ne s'agit pas du tout de produire une exégèse à des fins spirituelles. Il s'agit vraiment de faire une analyse politique. C'est quelque chose qui devient commun au XVIIe, hein, mais qui est très propre à Spinoza quand même, vraiment de considérer l'Ancien Testament comme un exemple politique, à analyser à partir des ressources de la science politique traditionnelle. D'une certaine manière, le royaume mosaïque prend sous la plume de Spinoza des allures un peu de rat de laboratoire. Hein. Le royaume de Moïse, c'est un modèle politique, un exemple d'État bien connu, dont on connaît la structure, les institutions, la genèse et la chute, donc qu'on maîtrise dans son ensemble. C'est un parfait rat de laboratoire. Donc, c'est précisément ce qui va permettre de disséquer une situation politique spécifique. Or, qu'est-ce que c'est que le royaume de Moïse? Pour Spinoza, c'est une théocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une théocratie? C'est un État dont Dieu est le souverain civil et dont les lois religieuses sont aussi les lois positives, les lois de l'État. Or, quelle est la caractéristique essentielle de cet État? C'est qu'il est extrêmement autarcique. Voilà. La théocratie mosaïque, c'est un exemple parfait, pour Spinoza, d'autarcie. Il a fait le choix, cet état, pour des raisons spirituelles, l'élection, et surtout, d'après Spinoza, pour des raisons politiques, la préservation de soi. Il a fait le choix de se couper de l'altérité et d'entretenir très peu de relations avec l'extériorité. Donc la situation est posée, le rat est dans la cage, on a un modèle qu'on va pouvoir disséquer pour voir ce qui se passe. Bon. Qu'est-ce qu'il advient de cet état, à partir du moment où il a décidé de se couper de l'extérieur? Et bien, avant de trancher la question, il faut revenir un tout petit peu en arrière et voir pourquoi la théocratie engage un repli autarcique. Pas évident. Il n'est pas évident que dès lors que vous faites le choix de faire de Dieu le souverain de votre état, vous vous repliez sur vous-même. Pourquoi? Et bien, si cet état se replie de fait sur lui-même, c'est tout simplement, d'après Spinoza, que la théocratie repose sur deux affects indissociables. L'amour des siens et la haine de l'étranger. Pour Spinoza, c'est ce qui fait le complexe passionnel caractéristique de la théocratie mosaïque. Alors, je fais une mini-parenthèse. Il n'y a pas de jugement de valeur chez Spinoza. De fait, c'est contraire à sa philosophie. Donc, il ne s'agit pas de critiquer le royaume de Moïse, pas du tout. Il s'agit vraiment de voir à quelles conséquences mènent des conditions une fois posées. Hein. Voilà. Je dis ça pour... prévoir les questions qui arrivent à chaque fois sur l'éventuel antisémitisme de Spinoza, qui est nul. Voilà. Mais on pourra en parler après. Donc, deux affects essentiels, l'amour des siens, la haine de l'étranger, qui vont ensemble. Alors, deuxième précision, quand je dis la haine pour Spinoza, c'est un affect particulier, il ne faut pas l'entendre au sens contemporain. La haine, c'est cet affect qui fait que, face à une chose qui diminue ma puissance d'agir, hein, qui réduit ma propre puissance, je vais soit m'éloigner, soit tâcher de le détruire. D'une certaine manière, la haine, c'est ce qui fait que vous éloignez des choses qui vous sont néfastes. Hein. Donc, il ne faut pas entendre la haine de manière très hyperbolique. Hein. Si vous ne sautez pas en parachute, d'une certaine manière, c'est une forme de haine qui fait que vous éloignez des choses qui pourraient vous nuire. Hein. Voilà, donc c'est ça qu'il faut entendre par haine. Donc, pourquoi ces deux affects? Pourquoi j'en passe par là aussi longuement? Parce que vous allez voir que ces deux affects, c'est aussi les deux affects qui polarisent l'affectivité de tous les groupes qui se replient, de la plupart des groupes qui se replient. Alors, pourquoi ces deux affects? D'abord, pourquoi l'amour, un tel amour des concitoyens? Ben, si les concitoyens sont particulièrement portés à l'amour de la patrie et de leurs concitoyens, c'est d'abord du fait des institutions mosaïques. Dans un état théocratique, Dieu est le souverain. Les commandements religieux sont des lois civiles, les concitoyens sont les membres d'un même peuple élu. Donc, de ce fait, la piété en vertu de laquelle les Hébreux aiment leur Seigneur se reporte naturellement sur leur État, leur territoire, leurs concitoyens. Bon. La piété produit un attachement religieux à l'État. Alors, ça suffirait peut-être pas à créer cet effet-là et à préserver l'État si par ailleurs, les institutions mosaïques n'étaient pas aussi profitables aux individus. La deuxième raison qui font que les Hébreux sont si attachés à leur État, c'est tout simplement que, Spinoza le note, aucune autre institution n'est aussi profitable aux individus et aux intérêts particuliers. Hein. En raison de l'instauration légale de la pratique de la justice et de la charité, en raison de l'instauration, par exemple, du jubilé, bref, tout un ensemble de règles institutionnelles font que nulle part ailleurs on ne peut être aussi bien. Hein. Nulle part ailleurs on ne peut être dans des conditions aussi favorables. Non. On ne peut pas vous priver longtemps de votre bien, on est obligé de vous faire la charité si vous êtes dans la pauvreté ou dans le dénuement. Les liens entre les gens sont constamment approfondis et nourris par la pratique du culte. Donc c'est un lieu où il fait bon vivre, quoi. D'où une adhésion très forte à l'État. Pour Spinoza, le royaume de Moïse, c'est l'exemple paradigmatique parfait du patriotisme. Hein. Très positif, hein. Grosse partie de ma thèse. C'est le modèle de l'attachement patriotique. Bon. Mais les Hébreux éprouvent certes, pour Spinoza, hein, un vif attachement pour leur État et leurs concitoyens, mais aussi donc, une haine, au sens que je vous ai dit, très forte à l'égard de ce qui est étranger. Alors, comment ces deux affects produisent-ils un repli autarcique ? Bah, tout simplement parce qu'un affect, pour Spinoza, ça n'est pas une impression passive. C'est pas juste un sentiment comme ça. Un affect, qu'est-ce que c'est ? C'est une réalité dynamique qui entraîne la mise en mouvement de l'individu. Je vous le disais, la haine, qu'est-ce que c'est ? C'est une tristesse, c'est-à-dire une diminution de ma puissance d'agir, qui fait que je vais être portée à m'éloigner de ce qui me nuit. Donc la haine, elle entraîne naturellement un mouvement de recul. C'est ce qui fait que face à un chien qui vous aboie dessus, vous avez un mouvement de... Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'amour, en revanche ? C'est exactement la chose inverse, c'est-à-dire face à une chose qui augmente ma puissance, ce qu'on appelle la joie, d'une joie, l'amour, face à une chose qui augmente ma puissance d'agir, j'ai naturellement tendance à m'en approcher, à la gagner. Donc les affects, ce sont des réalités dynamiques qui engagent l'action, qui engagent à se porter au devant des choses ou à avoir un mouvement de recul. D'où le fait que l'amour des siens et la haine de l'étranger entraînent un mouvement de repli. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que l'amour des siens entraîne un mouvement de rapprochement de ce qu'on aime, puisqu'on a tendance à vouloir se rapprocher de ce qu'on aime, et la haine de l'étranger pousse à la séparation avec les autres, puisqu'on a tendance à s'éloigner de ce qui nous nuit, ou de ce qu'on imagine nous nuire. Donc, de manière très, très facile, en fait, ces deux affects, amour des siens, haine de l'étranger, entraînent un mouvement quasiment impossible à réprimer de repli. Donc voilà le modèle affectif pour Spinoza de la théocratie hébraïque, mais c'est pour ça moi que ça m'intéresse, de tous les groupes, ou de la plupart d'entre eux, qui se replient sur eux-mêmes. C'est très souvent un mécanisme qu'on retrouve. Amour démesuré des siens, haine, inquiétude, angoisse face à l'altérité. Et ce même mécanisme, Spinoza note d'ailleurs qu'il est renforcé par la réciprocité. Non seulement nous avons tendance à haïr ce qui nous est, donc si je me replie parce que je hais les autres vont se mettre à me haïr en retour. Mais en plus, la haine accroît la haine. Donc non seulement les autres vont se mettre à me haïr, mais parce que les autres se mettent à me haïr, je les hais d'autant plus, donc ils me haïssent d'autant plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce mécanisme de repli est forcément, engage forcément un cercle vicieux. Dès lors que je me replie par haine, les autres vont eux-mêmes se mettre à se replier sur eux-mêmes. Et me haïssant, je vais moi-même accroître la haine que j'éprouve envers eux, et eux-mêmes vont accroître la haine qu'ils éprouvent envers moi, et donc ce repli ne peut que s'accroître. Donc c'est un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile de sortir. Donc, arrivé où on en est, on comprend un peu mieux quel est le fonctionnement affectif qui cause le repli sur soi. Alors, une question demeure. Qu'est-ce qui cause cette haine de l'étranger dans la théocratie hébraïque? Après tout, on pourrait se dire, l'étranger pourrait être neutre. Je pourrais aimer mes concitoyens et ne pas avoir de rapport affectif très déterminé avec l'extériorité. Pourquoi ce rapport de haine qui fait que je me replie, je me coupe de l'altérité? Pourquoi les institutions mosaïques instituent cette haine envers l'étranger? Mais tout simplement parce que la haine est un instrument politique redoutablement efficace. Redoutablement efficace quand on veut préserver l'unité et l'indépendance d'un groupe. État, église, association, je vous laisse compléter la liste. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que la haine, elle permet de lutter contre deux risques majeurs qui fragilisent constamment les groupes. Premier risque, un risque interne, l'attrait pour l'étranger. Pour Spinoza, l'homme est naturellement curieux. Chez lui, c'est pas forcément positif, mais il reste que l'homme, il est naturellement porté vers ce qui est nouveau, vers ce qui est étranger. Or, cet attrait pour l'étranger, Spinoza note, tant que l'identité, tant que la paix d'un État n'est pas acquise, elle est à peu près contenue. Tant que vous n'êtes pas sûr de votre indépendance, l'attrait pour l'étranger est à peu près contenu. Et vous gardez une très forte attirance pour les traditions de vos pères. Tant que la paix n'est pas acquise. Il suffit que la paix soit acquise et qu'elle dure depuis un petit peu longtemps, pour que l'attrait pour l'étranger renaisse. Or, quel est le risque essentiel à cette attirance pour l'étranger? Ben, c'est un risque très simple de dissolution de l'unité et de l'identité nationale. Pour prendre un exemple très simple, c'est ce qui arrive par exemple dans les années 50 avec l'américanisation de la culture. Il se trouve qu'on revient à un état de paix qui en plus suit un état de conflit très violent, donc on n'a qu'une envie, c'est d'y croire. Et bien l'état de paix revenant, l'étranger, ça devient sexy, quoi. Et ça, c'est dangereux pour un État. Ça peut l'être, en tout cas. Ça menace son identité, ça menace son unité. Or, dans ces cas-là, la haine, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe quand vous instituez la haine à l'échelle d'un État, d'un groupe, d'une église, que sais-je? Eh bien, vous faites tout simplement en sorte que l'étranger ne soit plus désirable. L'étranger n'étant plus désirable, on se reporte à nouveau sur les mœurs et les traditions de nos pères. On revalorise à nouveau ce qui est propre à notre culture. Faut que j'accélère, c'est ça? Ça marche. Bon. Deuxième risque essentiel que la haine permet de combattre, à court terme, hein, ben c'est la domination étrangère. Il se trouve que ce danger, il est externe cette fois. Il se trouve qu'un groupe, il peut être menacé de l'extérieur par des volontés de domination d'autres groupes. Or, dans ce cas-là, la haine constitue un formidable instrument de résistance. Pour Spinoza, la haine, c'est génial, ça renforce de manière considérable la force avec laquelle les gens luttent. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait pour Spinoza que Jérusalem ait si bien résisté systématiquement aux envahisseurs, là même où elle était plus faible en termes de force. Hein, je vous lis cette citation que j'aime beaucoup. « Combien ceux-là, c'est-à-dire les traits et les institutions du peuple hébreu, eut de force pour raffermir l'âme des Hébreux et les déterminer à tout supporter pour la patrie avec constance et une vertu singulière, la raison l'enseigne très clairement et l'expérience même l'atteste. Car jamais, tant que la ville fut debout, ils ne purent endurer le commandement d'un étranger. C'est pourquoi on appelait habituellement Jérusalem la cité rebelle. » Donc, la haine, c'est génial, parce que ça donne une force extraordinaire contre l'autre. Bon. Donc, l'institutionnalisation de la haine, elle apparaît à court terme comme un très efficace instrument au service de la préservation de l'identité et de l'unité du groupe. Là aussi, une très, très brève citation de Spinoza, hein, « Pour que les Hébreux puissent conserver la liberté qu'ils avaient acquise et garder sous leur domination les terres qu'ils occupaient, il leur fut nécessaire d'adapter la religion à leur seul état et de se séparer des autres nations, et c'est pourquoi il leur fut dit « Aime ton prochain ». Est ton ennemi. Donc c'est une nécessité politique à court terme. Donc l'autarcie, le repli sur soi, garantissent un groupe contre les dangers internes et externes de dissolution. Donc à court terme, c'est un pari efficace. C'est pas pour rien que les groupes font ce choix-là. C'est pas par bêtise du tout. Mais il se trouve que si à court terme c'est très efficace, à long terme c'est extraordinairement dangereux. Et c'est là que Spinoza est intéressant. Puisque ce qui vaut pour l'individu vaut pour la collectivité. Et là, même où vous avez l'impression de vous replier et d'être plus fort et contre les dangers internes et contre les dangers externes, c'est là précisément que se crée la fissure. Et une fissure qui reste inédite, qui reste insue la plupart du temps, jusqu'au craquage. De fait, c'est précisément le repli autarcique qui va faire dans le même temps que vous allez avoir de moins en moins de contact avec l'extériorité. Ayant de moins en moins de contact avec l'extériorité, vous allez voir votre aptitude à l'adaptation réduite. Et là se joue un cercle vicieux. Parce que plus vous réduisez votre adaptation, plus vous allez vous replier pour vous protéger. Et plus vous vous repliez pour vous protéger, moins vous êtes adaptable. Et moins vous êtes adaptable, et plus vous vous repliez pour vous protéger. Et plus vous repliez, moins vous êtes adaptable. Et donc se crée un cercle vicieux qui la plupart du temps reste insu pendant longtemps, qui fait que les collectivités se trouvent extraordinairement fragilisées par ce repli autarcique. Et de fait, c'est pour Spinoza ce qui cause la chute de l'État hébreu, hein, de la théocratie mosaïque. Ce qui cause la chute de la théocratie mosaïque, pour Spinoza, ça n'est pas une conquête extérieure. De fait, les Hébreux ont résisté avec la plus extrême force et le plus extrême courage contre l'envahisseur. Qu'est-ce qui cause la chute de l'État hébreu pour Spinoza? Un changement institutionnel. L'élection des Lévites. pour Spinoza, il a suffi qu'on change les institutions, c'est un changement important mais non pas considérable, pour que, à long terme, ce changement détruise complètement la structure de l'État hébreu. Tout simplement pourquoi ? Parce que, faute d'adaptation, on devient incapable, faute d'adaptabilité, faute de diversification de son affectivité, on devient incapable de résister au moindre changement interne ou externe. Ce qui fait qu'un petit changement important, mais néanmoins pas géant, institutionnel, va créer la chute d'un État entier qui aura pourtant résisté systématiquement aux puissances extérieures. Bon, puisque je me fais gronder par Philippe, je passe très rapidement sur les enjeux. Et puis on conclura là-dessus, ça vous voit, puis on pourra continuer dans la discussion. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que l'intérêt de Spinoza pour la théocratie hébraïque ne relève pas, déjà à son époque, d'une lubie d'historien ou d'une fascination de croyant. Pas du tout. Pour lui, l'étude de l'Ancien Testament a un enjeu immédiatement actuel qui s'inscrit dans un débat brûlant. En cette fin du XVIIe, nombreux sont ceux qui tentent de réinstaurer des théocraties. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont le nouveau peuple élu. Et de fait, certains courants du protestantisme hollandais, qui vont d'ailleurs créer ce qu'on va appeler la Jérusalem néerlandaise, Netherland Israel, Israël néerlandais, se considèrent comme le nouveau peuple élu. Donc les tentations théocratiques, elles sont constantes. Il ne faut pas croire qu'il s'agit seulement de cet exemple-là. En réalité, la tendance au repli autarcique, la tendance à la théocratie, elle est partout là où on se considère comme élu aux dépens des autres. Elle est partout là où on fait le choix du repli contre l'ouverture à l'altérité. Donc pour Spinoza déjà, cette analyse, elle a un enjeu brûlant en réalité. La théocratie hébraïque, parce qu'elle constitue un modèle de repli autarcique, elle permet de comprendre, en prenant de la distance, tous les phénomènes de repli religieux. Et de même que l'Ancien Testament vise pour Spinoza à comprendre les problèmes de son temps, elle fournit pour aujourd'hui des ressources pour comprendre les problèmes du nôtre. Parce que là encore, je le répète, il ne s'agirait pas de croire que la tentation théocratique, elle est propre seulement à certaines religions ou à certains états. La tentation au repli, c'est celle des petites communautés, c'est celle des individus eux-mêmes unis par la certitude commune d'être dans le vrai contre les autres, d'être soudés par le sentiment commun d'être des justes contre les autres, par le désir de rompre avec le commerce de l'altérité. Et nous tombons tous dans cette tentation qui fait de l'autre nécessairement un étranger. Individuellement comme collectivement. Et comme on l'a vu, c'est une tentation naturelle. Mais une tentation dont il faut connaître les dangers internes. Je passe sur toute la fin que j'avais prévue, parce qu'il me semble qu'on a déjà là un bon sujet de débat ensemble. Voilà. Je vous remercie de votre attention.